Les enjeux internationaux.
Avec vous Thierry Garcin, bonjour.
Et bonjour Guillaume Erner. Donc tout de suite le thème évidemment Ankara et l'Union Européenne. Notre invité Didier Billon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et spécialiste bien sûr du pays. Alors par-delà le dossier des migrants, on en a beaucoup parlé ici même, et la récente démission, on va y revenir, du Premier ministre, il faut s'interroger sur l'évolution des relations entre la Turquie et l'Union Européenne. Quelques repères vraiment scolaires mais quand même très utiles. En 63, un accord d'association entre la Turquie et la CE. À la fin des années 80, la Turquie frappe à la porte de la CE et reçoit une réponse dilatoire. En 95, une union douanière, la seule du genre d'ailleurs avec un pays tiers, entre l'Union Européenne et la Turquie. En 99, candidature à l'Union Européenne acceptée par Bruxelles. En 2004, alors ça c'est très important, l'adhésion de Chypre à l'Union Européenne. 38% de l'île sont occupées par la Turquie depuis 1974, ce qui fait d'ailleurs qu'un pays candidat occupe une large partie d'un pays membre. C'est le genre de fantaisie auquel se livre le Conseil européen de temps en temps. C'est absurde. Et puis en 2005, ouverture des négociations sur l'adhésion. Et en 2015, évidemment, l'accueil massif de migrants, essentiellement syriens, par l'Allemagne, relations privilégiées entre Berlin et Ankara. On voit qu'il y a une continuité quand même compliquée.
Oui, si les Turcs ont une vertu, c'est probablement la patience. La patience. Je pense qu'il faut toujours replacer cette affaire des relations entre l'Europe occidentale et la Turquie dans son contexte historique, dans la volonté des dirigeants turcs. On se rappelle par exemple qu'au début de la République de Turquie, 1923, Mustafa Kemal émaillait souvent ses discours de sa volonté d'occidentaliser son pays. Occidentaliser à l'époque, cela voulait dire européaniser. Les États-Unis étaient bien loin et donc c'était cette volonté. Bon, nous n'avons pas le temps de prendre année après année, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette volonté turque de s'arrimer à l'Europe occidentale, et y compris sous sa forme politique, c'est-à-dire la communauté économique européenne que vous avez évoquée, puis désormais l'Union européenne, est une constante. Alors, si l'enthousiasme turc à l'égard de l'Union européenne, qui était extraordinairement important il y a une dizaine d'années, au moment de l'ouverture des négociations en 2005, est un peu retombé aujourd'hui, il est vrai. Mais il faut dire que depuis lors, l'Union européenne est peut-être devenue un petit peu moins attrayante à cause de ses crises, de son incapacité à se projeter dans l'avenir. Il n'empêche, une étude récente réalisée par un institut de recherche états-unien a indiqué assez clairement qu'une majorité, une petite majorité certes, mais néanmoins plus de 50% des citoyens turcs étaient toujours favorables à la perspective de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne. Donc on voit que cette volonté de se rapprocher, de formaliser les liens et voire d'intégrer un jour l'Union européenne est encore très prégnante dans le pays.
Alors d'ailleurs, il y a autant d'arguments pour l'adhésion à l'Union européenne que contre l'adhésion à l'Union européenne de la Turquie. En même temps, ce sont les mêmes arguments qu'on peut retourner comme les doigts d'un gant.
Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je pense qu'en réalité, le simple fait que la Turquie ait demandé à l'ouverture des négociations, chose effective depuis une dizaine d'années, pose à l'Union européenne une série de questions qu'elle aurait dû se poser antérieurement, qu'elle n'a jamais fait, mais le fait même que la Turquie soit candidate de par sa taille, de par sa population, près de 80 millions d'habitants, de par sa position géopolitique, oblige les Européens à se poser ces questions. Quelles sont-elles? Elles sont au nombre de trois, pour aller vite. La première, c'est la question des frontières. Est-ce que l'Union européenne doit se doter de frontières dites naturelles? Évidemment non, si nous considérons que l'Union européenne est un projet politique. Deuxième question, c'est celle de l'identité des valeurs européennes. Et quand je dis cela, tout le monde comprend bien que c'est la question du rapport à l'islam. Et ça, c'est très important. Moi, je suis de ceux qui considèrent que le choc de civilisation, il n'est pas derrière nous, que c'est un risque réel. J'espère qu'il ne se réalisera jamais, mais chacun comprend, il ne faut pas avoir fait 15 ans de sciences politiques pour comprendre, que si la Turquie était dans l'Union européenne, ce serait un véritable argument pour tenter d'éviter, tant que faire se peut, cet hypothétique choc des civilisations. Et puis la troisième question, c'est la question de la pertinence du niveau européen pour agir au niveau international. Alors, bien sûr, je comprends bien qu'il faudrait pour ce faire que l'Union européenne se dote enfin d'une véritable politique extérieure. Nous n'en sommes pas là, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais néanmoins, au vu des défis extrêmement importants qui se posent constamment dans notre rapport au Moyen-Orient, au Caucase, voire à l'Asie centrale, il est évident que l'intégration à terme de la Turquie dans l'Union européenne serait un véritable multiplicateur de puissance à la fois pour l'Union européenne et pour la Turquie. Je suis pour ma part partisan de l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, même si je comprends parfaitement que ce n'est pas pour demain matin. On peut être raisonnable, ce n'est peut-être pas non plus pour dans deux siècles.
On peut d'ailleurs, on va voir juste d'un mot, je vous pose la question quand même tout de suite. Au fond, si un jour la Turquie était dans l'Union européenne, ce ne serait pas la même Union européenne à laquelle elle aurait posé sa, devant laquelle plutôt elle aurait posé sa candidature dans l'état où se trouve assez lamentable l'Union européenne.
C'est exactement la bonne méthode pour réfléchir, parce que effectivement les arguments des pour et des contre sont assez réversibles, comme vous l'indiquez, je partage totalement ce point de vue. Mais il faut se placer en perspective. Raisonnons sur 15 ans, allez, une quinzaine d'années. Si dans 15 ans, la Turquie en est encore dans la situation où elle se trouve aujourd'hui, notamment avec la question kurde non résolue, etc. Et puis si, pour sa part, l'Union européenne dans 15 ans est toujours dans le même état qu'aujourd'hui, ça serait à désespérer. Donc on peut raisonnablement considérer que et la Turquie et l'Union européenne vont se modifier et qu'alors le débat ne se posera plus du tout en les mêmes termes. Et puis par ailleurs, chacun comprend que si la Turquie adhère un jour, eh bien il y aura dans 15 ans une Europe avec un noyau central, peut-être fédéré, je ne sais, et puis un certain nombre de pays membres en tant que tels de l'Union européenne, mais qui n'auront peut-être pas le même rapport que ce noyau central.
Juste d'un mot, Didier Billon, il y a eu plus d'une trentaine de chapitres qui doivent être ouverts et clos, évidemment, dans les négociations entre tout pays candidat et l'Union européenne. Il y en a combien qui ont été ouverts de chapitres ?
Alors, 35 chapitres au total doivent être négociés, 15 ont été ouverts, et un seul pour l'instant a été refermé. C'est ce qui a été réalisé en 10 ans, plus de presque maintenant 11 ans de négociations. Vous voyez que les choses vont très très lentement.
On termine quand même, volontairement, on n'aborde pas le dossier très complexe des migrants, on termine quand même par la politique intérieure turque. Alors, démission il y a quelques jours, quelques semaines, du Premier ministre, ça s'explique ?
Oui, il y a plusieurs raisons pour aller très vite. On revient à l'Union européenne. Nous savons que c'est Monsieur Davutoğlu, le Premier ministre, alors presque ex-Premier ministre, il gère les affaires courantes, qui avait géré l'accord avec l'Union européenne sur la question des migrants le 18 mars dernier. Et clairement, il a capté la lumière. C'est un très bon négociateur. Et Monsieur Erdogan, le chef d'État, le Raïs, comme on le nomme maintenant en Turquie, a assez peu apprécié que son Premier ministre capte justement cette lumière. Oui. Deuxième aspect, c'est la question récurrente dans la vie politique intérieure turque de la réforme constitutionnelle et de la présidentialisation du régime. Et M. Erdogan reproche assez clairement à son ancien Premier ministre de n'avoir pas été assez dynamique, de n'avoir pas été assez en capacité d'initiative pour faire aboutir cette réforme qui constitue une des obsessions de M. Erdogan. Enfin, et troisième dossier, il est très important, c'est qu'il y a visiblement une divergence, ou en tout cas des nuances entre M. Davutoğlu et M. Erdogan sur le dossier kurde. M. Erdogan, le président de la République, est pour éradiquer le PKK, il est pour militariser la question kurde, alors qu'il semble que son Premier ministre ou ex-Premier ministre était plutôt pour reprendre la voie de la dure, difficile négociation avec le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan.
Voilà, merci beaucoup de cet éclairage, Didier Billon. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, et puis franceculture.fr pour vous réécouter, pour télécharger les émissions. Merci à nos nombreux auditeurs qui procèdent. Et puis demain, nous allons parler d'un sujet très intéressant, c'est les entreprises françaises, notamment l'exportation et la culture chinoise. Chine et comment pourrait-on dire, dirigeant d'entreprise, et notre invité sera Chloé Asensio.